est le nouveau président du club des entreprises du bocage bressuirais. À l'heure de la rentrée, nous allons prendre avec lui le pouls de la vie économique sur ce territoire et celle de l'entreprise qu'il dirige, Tremblay Créateur. Autour de cette table, j'ai le plaisir à retrouver Fabien Gouault pour le Courrier de l'Ouest et Dominique Guinfolo pour la Nouvelle République. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Pascal Tremblay, c'est de vous dont il s'agit. Une première pour vous que ce média. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez donc succédé à Gérald Fauchereau à la tête du club des entreprises du bocage bressuirais. Qu'est-ce qui vous a motivé à y aller?
Alors, déjà, je remercie Gérald pour ses 3 ans à la tête du club des entreprises du bocage bressuirais, parce que il a fait un mandat de 3 ans qui était super, une très belle présidence. Alors, il était accompagné d'une équipe, mais en tout cas, il a amené ça de main de maître. Et pour répondre à votre question, eh bien, c'est aussi en partie Gérald qui m'a donné cette envie, puisque faisant partie du conseil d'administration donc de l'équipe, c'est toute cette bonne ambiance, cette envie d'avancer tous ensemble et le travail de groupe qui fait qu'on a aussi envie de s'investir dans une association qui permet de travailler ensemble et de nous lier, quoi.
Pourtant, les 3 dernières années, on peut pas dire que tout a été un long fleuve tranquille. Ça a pas été les plus belles années pour tout le monde, d'ailleurs.
Les 3 dernières années, au niveau de la conjoncture santé et sociale, ça a été compliqué puisque tout a découlé. Et économique, donc santé, sociale, économique, tout a été lié. En effet, la crise Covid a fortement chamboulé la vie de chacun, dont le club, au niveau de ses réunions et au niveau de toute son animation auprès de ses adhérents. Donc il n'a pas eu une tâche facile, en effet, par rapport à ça. C'est pas encore fini tout à fait, hein, puisque le Covid, on a appris à vivre avec, même si c'est pas complètement fini. J'espère qu'il n'y aura pas de secousse brutale prochainement. En tout cas, la conjoncture économique, on est en plein dedans.
Très bien.
Les activités du club des entreprises, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu l'intérêt, surtout pour les entrepreneurs, en fait, en quoi c'est important de vous retrouver régulièrement pour échanger, pour partager des problématiques peut-être?
Alors, le club des entreprises du bocage bressuirais regroupe à peu près toute la zone, regroupe toute la zone de l'agglo de Baie. Les entreprises, toute entreprise qui est sur ce territoire peut en faire partie, est invitée à en faire partie. Pourquoi ils pourraient en faire partie, en tout cas ce qu'ils peuvent y trouver. Le but pour notre association est de créer du lien entre chacun, de pouvoir parler de thèmes qui nous attachent tous, que ça soit bien sûr économique, on pense à ça en premier, mais bien sûr social. Au cœur de nos entreprises, ce sont nos salariés, ce sont nos équipes qui font la réussite de nos entreprises et de l'économie locale. Donc c'est des thèmes sur l'économie, sur le social, la formation, le recrutement, puisque ça aussi c'est tout est lié. Et puis des thèmes de société qui sont bien sûr l'environnement, toutes les structures du territoire qui peuvent accompagner toute la population et donc nos équipes, que ça soit leur famille, les enfants ou toutes les structures qui composent le territoire et qui fidélisent les gens sur le territoire.
Combien sont-ils à vous avoir rejoint justement au sein du club? Parce que vous êtes un club important, hein, au niveau des entreprises qu'ils composent.
Oui, on a à peu près 320 membres, alors, plus ou moins, on a à peu près 320 membres. Alors, je ne voudrais pas le jurer, mais il paraît qu'on a dit qu'on était plus gros, la plus importante association d'entreprise de
Nouvelle-Aquitaine. De Nouvelle-Aquitaine.
Ouais. Et je vais pas le jurer parce que je n'ai pas vérifié.
Tout secteur confondu, ça peut être une petite entreprise, une moyenne, une grande, un artisan, un commerçant.
Ouais. On a à la fois des sur le bocage bressuirais, on n'a pas de multinationales. Ceci dit, on a des très belles entreprises comme Millet ou bien d'autres, mais on a tous les parmi nos adhérents, c'est à la fois des PME, des TPE, très petites entreprises. Donc on peut avoir en effet une personne qui travaille toute seule ou avec un assistant, et puis des grandes entreprises.
Est-ce que les TPE, vous dites, les entreprises qui n'ont parfois qu'un patron qui travaille tout seul, elles y trouvent aussi leur compte? Est-ce que c'est pas compliqué pour elles, plus compliqué pour une PME ou pour une entreprise comme vous, où vous parliez de Millet ou d'une autre un peu plus capée, un peu plus étoffée, on va dire, en effectif?
Alors, en effet, pour une TPE, ça peut faire peur. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Sauf qu'au contraire, il faut pas hésiter, il faut participer. Les problèmes ou les sujets de conversation qu'on peut avoir, qu'on soit petite, moyenne ou grande entreprise, se regroupent. Les problèmes humains se regroupent, les problèmes de trésorerie se regroupent. Alors les échelles ne sont pas du tout les mêmes, les structures d'entreprise ne sont pas les mêmes. Alors bien sûr, on a des activités qui sont diverses et variées, mais malgré tout, en termes de formation, de recrutement, d'accompagnement de nos équipes, bien sûr, économiquement et financièrement, il y a beaucoup de points communs. Stratégiquement, bien sûr, c'est à l'échelle de chaque entreprise et en fonction de leur activité. Mais la construction d'une stratégie, la construction d'un, ou la résolution de problématiques peut s'articuler de la même manière, bien souvent.
Vous le sentez comment, le moral des chefs d'entreprise en cette rentrée?
Alors, c'est... il est plutôt bon. Il est plutôt bon. Sur un territoire qui fonctionne bien, où l'économie est plutôt saine. On a passé la période Covid, même s'il y a eu des inquiétudes, plutôt sereinement. Ceci dit, on est quand même dans une période de flou économique. Dû notamment à la hausse des matières premières, à la conjoncture mondiale qui joue sur la hausse des matières premières et sur toute l'incertitude par rapport au marché lié à l'inflation et au gros problème qui se pose de l'énergie, du coût de l'énergie qui est galopant.
L'avenir est incertain, on le comprend, mais comment vous avez géré et quels ont été vos outils pour justement ces deux dernières années réussir à ce qu'il n'y ait pas eu trop de défaillances d'entreprises sur ce secteur?
Alors, à notre échelle, c'était relativement limité, hein. On est une association à but non lucratif, donc nous, à notre échelle, on a essayé de garder du lien avec nos adhérents. On a essayé également d'être un relais vis-à-vis d'organes de l'État telle que la sous-préfecture qui nous avait demandé de sonder nos adhérents pour savoir quel était le moral, quels étaient leurs besoins, comment ils se sentaient.
Donc, oui, vous répondiez à des enquêtes, hein, concrètement, à la demande de la préfecture.
On a quasiment monté une enquête interne, puisque chaque membre du conseil d'administration a appelé un groupe d'adhérents de façon à couvrir l'ensemble des adhérents pour savoir quels étaient leur situation, quel impact avait le Covid sur leur activité, sur leur santé, sur leur trésorerie, sur leur carnet de commandes, ainsi de suite. De façon, on avait des questions qui étaient similaires, hein, oui. De façon à regrouper leurs problématiques et puis à savoir quels étaient leurs besoins immédiats afin de surmonter la période. Ça nous a permis éventuellement de soulever quelques problèmes et puis de remonter ce baromètre à l'époque à la sous-préfecture qui nous l'avait demandé. Après, en termes de moyens, on n'était pas l'État. Donc les moyens, c'est l'État.
Est-ce que les aides, justement, de l'État ont été à la hauteur?
Alors je pense que là-dessus, l'État français a fait un travail remarquable. Je pense qu'il y a peu de pays qui peut s'aligner sur ce qui a été fait. On peut toujours trouver des choses ou dire on aurait pu faire mieux sur tel ou tel point et on pourra toujours faire mieux à un moment donné quand on regarde la copie qui a été faite. Ceci dit, le travail de l'État français a été relativement remarquable. Il n'empêche que il reste des entreprises qui ont été en souffrance ou qui le seront demain, puisque tout le travail des PGE qui a fortement soutenu les entreprises et l'économie immédiate, à un moment donné il faut les rembourser, ce qui est bien normal, hein. Certainement maintenant qu'on arrive dans une période de flou où la conjoncture ne s'est pas améliorée, puisque la guerre en Ukraine dans l'Est a développé d'autres problèmes énergétiques notamment, je pense que tout cumulé ça va développer d'autres soucis.
Si on remonte quelques mois en arrière, est-ce que vous diriez que finalement les entreprises s'étaient bien sorties du Covid on se remet au mois de décembre dernier, mettons, ou janvier, est-ce que vous diriez que les entreprises du bocage étaient bien sorties de cette pandémie ?
En règle générale, oui. Ouais. Honnêtement, toutes les aides, les accompagnements qui ont été mis en place, que ça soit au niveau national ou régional, départemental, local, tout ça a permis vraiment un accompagnement des entreprises, un accompagnement aussi du moral des gens. C'est important, hein, tout ça.
Donc vous êtes senti soutenu, très concrètement.
Oui, vraiment. On l'a bien vu, le moral des entrepreneurs et aussi de la population, puisqu'il y a eu des sondages, alors pas au niveau local, mais au niveau national, on le voyait, était plutôt positif. Et au niveau local, notamment, on a des baromètres via la Banque de France, Nouvelle-Aquitaine, puis départementale, qui clairement donnait un baromètre plutôt positif en termes d'activité et en termes de santé financière de nos entreprises. Et le moral des chefs d'entreprise et des salariés, des dirigeants, était plutôt positif.
La tradition du territoire, c'est aussi un territoire qui sait faire bloc dans l'adversité. Ça, on a été face à une période de cette nature-là. Vous l'avez ressenti aussi entre entreprises. Il y a eu de la solidarité à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu des échanges quelconques pour s'entraider sur tantôt des marchés recommandés? Je ne sais pas. Comment ça peut se traduire, cette entraide entre chefs d'entreprise?
Alors, on est en effet une région historiquement où il y a beaucoup d'entraide, de liens. Alors, est-ce que c'est lié à l'histoire entre guillemets vendéenne, hein, puisque bon, on est sur un territoire de la Vendée militaire, mais en tout cas, c'est lié aussi à l'esprit rural qu'on a, puisqu'on est dans un pays territoire rural et les valeurs terre et travail sont très importantes. De toute façon, en règle, historiquement, oui. Il y a vraiment des valeurs, des valeurs pour l'ensemble de la population locale qui sont importantes au niveau du travail et aller de l'avant. Et on l'a senti. Alors, on a de l'échange entre entreprises. Or après, il n'y a pas une organisation spécifique qui a été mise en place pour pouvoir travailler des points très précis.
Donc on sort à peu près, on va pas dire indemne, mais on sort plutôt pas mal de cette crise sanitaire, enfin du moins des entreprises. Et là, l'économie redémarre, sur les chapeaux de roue d'ailleurs. On voit les entreprises se plaindre de ne pas trouver de personnel. Alors c'était un problème qui était déjà présent avant la crise sanitaire. Voilà, à quoi vous attribuez ce problème, ce manque dont parlent les entreprises de main-d'œuvre, d'expertise même, d'attractivité du territoire?
Alors déjà, avant la période crise sanitaire, on avait un problème de recrutement important. Hein, le nord de Sèvres, notamment l'agglo de Bé, était en pénurie de personnel, hein, puisqu'on était à moins de 6% de chômage déjà avant la période Covid. Donc on avait toutes les entreprises, et c'était un problème présent et actif pour pouvoir trouver des personnes. Donc c'est pas un problème nouveau. Les entreprises sont déjà organisées pour étaient déjà organisées pour rechercher des personnes formées en interne avec de l'apprentissage, avec en essayant de nouer des liens avec des écoles de formation. Ceci dit, depuis la période Covid et une reprise importante et des changements sociétaux qui se sont passés aussi pendant la période Covid, ce problème de recrutement est presque national, peut-être à l'exception de certains territoires en France, mais est devenu national, et chez nous il s'est amplifié. C'est vraiment une problématique qui s'est amplifiée. Donc maintenant je crois qu'on est à moins de 5% de chômage sur notre territoire.
Et c'est compliqué.
Et c'est compliqué parce que dans les 5%, il faut trouver des personnes compétentes qui correspondent à nos activités.
On évoquait à l'instant, Pascal Tremblay, cette pénurie de main-d'œuvre en bocage. Quels sont vos outils finalement pour essayer d'y remédier? L'autre jour, il y a une équation, vous le disiez aussi, qui est très compliquée à résoudre. La directrice de Pôle emploi nous disait plus 46% d'offres d'emploi face à moins 11% de demandeurs d'emploi sur ce territoire. Quels sont vos leviers? Comment vous pouvez essayer d'activer des solutions?
Alors, il y a différents leviers qui peuvent se mettre en place. Vu que la pénurie chez nous, localement, n'est pas nouvelle, les entreprises sont habituées à travailler déjà différents leviers. Premièrement, ce qu'on appelle maintenant la marque employeur, c'est travailler l'avis de leur employé au sein de l'entreprise, que ça soit dans les structures d'accueil de l'entreprise, les structures d'accompagnement dans une intégration d'entreprise et la formation à l'entreprise, que ça soit bien sûr tout ce qui couvre le salaire et les rétributions diverses et variées, mais il y a également l'image dans l'entreprise, comment elle communique, comment on vit en son sein, comment elle forme, comment elle accompagne, tout ça on le travaille depuis longtemps. Et c'est des choses il y a 15 ans qu'on parlait beaucoup moins.
Ouais, même s'il y a 15 ans, est-ce qu'il n'y avait pas plus une culture d'entreprise justement qui facilitait peut-être le recrutement?
Une culture d'entreprise, je pense qu'il y a 15 ans, il y avait moins de... les salariés, entre guillemets, avaient plus de longévité dans l'entreprise. C'est peut-être, peut-être ça qui faisait la culture d'entreprise, mais je ne sais pas si... c'était le lien avec l'entreprise. Maintenant, mais ça c'est un phénomène de société, hein, y a un peu plus de mouvement dû à différentes choses. Soit on cherche une rémunération, soit on cherche plus de confort, soit c'est la vie privée qui change, qui fait qu'on change également de travail. Mais c'est divers et varié, ça.
Changement de mentalité auquel vous, les chefs d'entreprise, vous êtes obligés de vous adapter. Alors, comment vous faites pour vous y adapter finalement? Est-ce que, par exemple, vous prenez plus en compte le bien-être au travail, tout simplement, qui était peut-être jusqu'à maintenant un peu...
En effet, c'est... Alors, j'espère que... Alors, entre guillemets, j'espère que toutes les entreprises et tous les responsables d'entreprise, quels qu'ils soient, le travaillaient déjà avant que ça soit... plus important maintenant, parce que quelque part la vie en entreprise, c'est pour moi c'est très important que ce soit maintenant pour que le salarié se sente bien en entreprise, mais il y a 20 ans c'était la même chose. Alors en effet, la société a évolué maintenant.
Peut-être que les salariés sont plus exigeants.
C'est mis plus en avant, en effet. Mais de toute façon, ça c'est très important. On parlait de la marque employeur, ça en fait partie, c'est un des composants de la marque employeur. Après, à côté de ça, pour aller chercher du personnel, il faut travailler aussi avec les écoles, avec l'apprentissage, avec des événements comme le job dating le 20 octobre qui sera mis en place. C'est plein de choses comme ça. Il faut être présent, il faut être actif, il faut donner aussi envie aux salariés de venir vers nous retrouver, que ça soit dans nos activités et dans leur vie à eux. Mais
le club d'entreprise, justement, quel rôle il peut jouer, lui, pour répondre à cette pénurie, pour essayer de la gommer?
On peut par le par l'intermédiaire de nos plénières et en fonction des thèmes qu'on peut avoir. Alors, on a des thèmes qui peuvent être économiques, très financiers, mais on a aussi des thèmes qui sont de société ou de recrutement. Donc là, c'est des thèmes, quand on parle de formation et de recrutement dans un thème, on en a... C'est pas le thème de la prochaine plénière, mais...
On en parlera tout à l'heure.
Mais en tout cas, ça peut être une réponse totalement ou en partie à apporter aux entreprises adhérentes. On est également présent, on tient un stand par exemple lors du 20 octobre
au
Job Dating. Toutes les entreprises qui adhèrent ou toutes les entreprises du Nord de Sèvres ne peuvent pas être présentes au Job Dating. Nous, on se fait fort si ils nous relaient leurs besoins, leurs offres d'emploi, de les relayer, de les mettre à disposition et de faire le lien entre les personnes qui viennent candidater au Job Dating, de faire le lien et de relayer auprès des entreprises qui nous auront remonté leurs besoins.
Mais comment
Donc je les invite à remonter leurs besoins.
Comment vous y êtes associé en amont à ce Job Dating?
Alors, parmi nos adhérents, nous avons différentes personnes qui font partie de commissions indépendantes, telles que la Maison de l'Emploi et choses comme ça. Récemment, il y a eu des annonces faites avec l'Atelier des Talents aussi. Là également, on n'est pas forcément un acteur de première ligne, mais on adhère à ce projet d'Atelier des Talents qui est de former des personnes, notamment actuellement sur autour du textile, mais c'est une manière d'être un acteur et de faire un relais au niveau du recrutement et demain des salariés.
Est-ce que le rôle d'interlocuteur auprès de la collectivité, vous êtes prêt aussi à l'assumer pour porter la parole des entreprises, je pense sur des aspects tout bêtes comme la fiscalité, auprès de l'agglo, des choses comme ça. Est-ce que vous allez sur ce terrain-là ou au contraire vous dites là non, c'est pas vraiment notre rôle?
Alors, préciser un petit peu.
Sur des évolutions de fiscalité, par exemple, une grogne qui pourrait survenir de la part des chefs d'entreprise, est-ce que vous seriez à même de porter la voix de vos adhérents en allant à la rencontre de la collectivité, en disant là...
On a vu il y a quelques années plus qu'un débat, d'ailleurs, une bronca des chefs d'entreprise suite à une délibération à Delta Sèvres Argent sur la CFE, je crois,
cotisation foncière
des entreprises. Il y avait eu une petite erreur de calcul, on va dire.
De toute façon, nous sommes un acteur du territoire Nord de Sèvres. Donc oui, en fonction de la remontée de nos adhérents, alors d'une majorité, il ne s'agit pas que ça soit un adhérent isolé, mais oui, on est
oui,
un intervenant
en
et on doit
l'exprimer.
On se doit de l'exprimer, en tout cas il faut être constructif, mais on ne peut pas nier ce fait. On regroupe un ensemble de 320 entreprises, quelques 10 000 salariés. Bien sûr, si le sujet levé a un intérêt pour la vie de nos entreprises et de nos salariés, bien sûr, on se doit même d'intervenir et puis d'être un interlocuteur.
Vous le disiez tout à l'heure, les mentalités des salariés notamment ont évolué. Est-ce que celles des chefs d'entreprise ont évolué également pour mieux être à l'écoute? Et je pense notamment à un moment pour recruter, il faut aussi que le salaire soit en face et en phase. C'est vraiment des notions sur lesquelles vous planchez, ça?
Oui, alors... Clairement, le comportement et les idées des entrepreneurs évoluent, au même titre que la société. Et heureusement d'ailleurs.
Oui, vous n'avez pas le choix.
On est un composant, au même titre que tout le monde, quoi. Et heureusement qu'on évolue.
Mais est-ce que vous faites
les efforts, concrètement? Les efforts vont de même, quoi. Bien sûr qu'on prend plus, il y a l'évolution des 35 heures à la fin des années 90, forcément, il a fallu évoluer. Quelles que soient les idées à l'époque, à un moment donné, c'est la réalité. Le bien-être en entreprise est un sujet important. Les mentalités des années 80 ne sont pas les mentalités des années 2000, et il faut vivre avec, et tant mieux. Mmh. Et tant mieux, il ne faut pas vivre avec le passé.
Mais vous adaptez de façon contrainte ou bien vous anticipez justement parce qu'il y a cette pénurie de main-d'œuvre et qu'à un moment, bah, il faut bien pouvoir recruter au risque sinon peut-être de voir son entreprise.
Alors, je dirais tranquille. Que il y a de nombreuses années, on subissait un peu, et j'espère et j'ose espérer, même si c'est pas toujours le cas, qu'on essaye de l'anticiper.
Voilà, l'évolution est bien là.
Précurseur.
C'est une donnée fondamentale, ça.
Ah oui, oui, oui. Anticiper les besoins, anticiper les souhaits, de façon à s'adapter, à trouver les solutions avant que les problèmes arrivent, hein, quelque part. Pour moi, c'est fondamental pour les entreprises, afin de prendre en compte la société, afin de prendre en compte le bien-être du salarié, afin de qui est la richesse de l'entreprise pour aboutir à la réussite.
Juste avant, une question de Dominique Guinfolo. Est-ce qu'il y a concurrence entre vous, puisque différents secteurs sont représentés au sein du club, forcément des entreprises de même activité? Est-ce qu'on va se piquer aujourd'hui les salariés?
Bah, j'espère pas. Alors, y aura toujours des exemples à un moment donné. Forcément, il y a des salariés qui vont dans une entreprise voisine. Mais le but n'est pas là. Hein.
Après, vous veillez à cela,
oui. Non, c'est pas notre rôle. Le mouvement des salariés, nous, on va pas le gérer. Ce qu'on va gérer, c'est un, l'attractivité de l'entreprise. Enfin, chacun va veiller à ça. On va veiller aussi à avoir des valeurs qui sont saines et bienveillantes.
Ouais, c'est en ce sens où je vous disais ça, il pourrait y avoir une confraternité au sein de votre club pour redire attention, on travaille tous ensemble.
Oui, alors ceci dit, honnêtement, on n'a pas eu besoin de le dire jusqu'à maintenant, donc c'est plutôt que l'ambiance est saine, heureusement. Après, on a différentes activités. Ceci dit, malgré les thèmes qu'on aborde, on n'aborde pas forcément de choses confidentielles avec des chiffres qui pourraient mettre en cause l'un ou l'autre, contrairement à d'autres associations plus red beat où en effet il y a des systèmes de confidentialité. Nous, c'est pas le cas. Le but est vraiment d'avoir des thèmes qui nous rassemblent, de solutionner autour de thèmes des problématiques que chacun peut rencontrer, et puis d'avoir un lien qui nous permet d'avancer.
Alors donc, un problème de main-d'œuvre qui dure depuis des années, l'économie qui repart après la pandémie, et puis un séisme avec la guerre en Ukraine, des gros problèmes d'approvisionnement, d'alimentation en énergie, parfois de spéculation aussi. Comment les entreprises du bocage vivent-elles ce séisme?
Alors, quand on parlait de morale des entreprises, il est plutôt bon, en effet. Ceci dit, on a parlé juste avant qu'on sortait du Covid plutôt fort avec toutes les aides qu'on avait eues et le bon moral qui nous avait entraîné. Mais c'est vrai que la guerre en Ukraine, même si elle est localisée, elle touche tout le monde. Et là, c'est le deuxième coup près. Et si actuellement les carnets de commandes sont plutôt bons, il y a de l'activité, les entreprises sont globalement en général en bonne santé. Malgré tout, on est rentré dans une période de flou sur la capacité à remplir ses carnets de commandes, sur la capacité à gérer ses rentabilités, puisque ça a développé des pertes d'énergie immédiatement, et donc des hausses de coûts de l'énergie. et également la spéculation ou des problèmes d'approvisionnement sur de la matière première et de la spéculation qui augmente à nouveau et continuellement les coûts sur de la matière première. Donc là, c'est la deuxième couche, quoi. Là, ça devient compliqué. Et je pense qu'en effet, cette période de flou, ça va être à terme. Peut-être, j'espère me tromper, mais ça va être un petit peu plus compliqué à gérer. Surtout, le problème d'énergie immédiatement. Là, pour l'instant, c'est maîtrisé par l'État au niveau du particulier, et tant mieux. D'autres pays, c'est pas tout à fait le même cas, hein. En Angleterre, enfin, au Royaume-Uni, ça semble beaucoup plus compliqué. Mais les entreprises, ça va être, à mon avis, beaucoup plus problématique. Même si des choses ont été mises en place, ça semble quand même assez nébuleux pour l'instant.
Concrètement, pour les entreprises, sans forcément citer de nom, vous avez des exemples de l'impact justement que ça a sur les entreprises adhérentes du Club des entreprises ?
Alors, l'impact le plus important, c'est sur les industries, notamment. En tout cas, celles qui sont fortement consommatrices d'énergie. Là, en effet, hein, ils voient leur coût qui peut être multiplié plutôt
oui.
par 3, par 4. Alors, si on prend une entreprise qui a 30 000, un exemple, 30 000 euros de frais énergétiques à l'année, voit son coût passer à 150 000 euros, enfin, c'est énorme. Mmh. C'est énorme. Quelquefois, c'est tout le résultat de l'entreprise qui est mis en jeu, quoi. Et donc, demain, si c'est pour travailler, pour perdre de l'argent, comment on fait ?
La première solution serait quoi ? Ce sera de rogner sur les marges ?
On a les augmenter.
De toute façon, oui. Immédiatement, parce qu'on ne peut pas répercuter immédiatement, il y a forcément une perte de rentabilité. Alors, après, on peut toujours essayer de réajuster son prix de produit. Ceci dit, quand vous avez une augmentation de charge fixe qui est de 4 ou 5 fois plus, sachant que des matières premières augmentent également, le tout conjugué, c'est très compliqué. Tous les produits à base d'énergie, par exemple le béton, les choses comme ça, qui ont besoin d'être cuits et qui prennent beaucoup d'énergie, subissent des augmentations aussi. Le dallage. Tous les dallages qui sont en carrelage et choses comme ça subissent de fortes augmentations. Et j'en passe bien d'autres, hein, j'en oublie. Donc, vous avez à la fois le prix énergétique, à la fois le prix des matières premières qui sont composées d'énergie ou qui sont composées de pénuries de produits qui ne viennent pas.
Est-ce que vous voyez par contre émerger des choses un peu plus vertueuses ? Que dans toute crise, il peut y avoir aussi des solutions un peu innovantes et de bon sens qui émergent. Est-ce que vous voyez ça émerger sur justement l'autoconsommation énergétique, sur des approvisionnements plus de proximité, des choses qui permettent de trouver des solutions et de limiter la casse, entre guillemets ?
Alors, on va le voir arriver. Je pense que tout le monde est en train de travailler dessus pour trouver des solutions innovantes. Il y a aussi des solutions qui sont des solutions immédiates, mais qui sont pas très bonnes, entre guillemets, puisqu'il y a clairement des entreprises qui baissent leur période de travail ou leur temps de travail pour baisser leur note énergétique ou les choses comme ça. Mais quelque part, ça veut dire qu'elles ne répondent pas forcément complètement à leur carnet de commandes et qu'elles baissent leur production pour pouvoir maîtriser leurs coûts.
Ça arrive en bocage, des entreprises qui ont décidé d'aller jusque-là.
Alors, celles-ci ne l'ont pas encore dit, mais oui, c'est évident. Il y a des baisses de production qui vont s'opérer par rapport à ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est la croissance qui va être en jeu. C'est clair. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus clair. Après, il y a des solutions qui sont apportées par des associations locales telles que Recto Verso, qui travaille sur à l'origine sur la synergie d'achat et puis tout ce qui est le traitement des déchets, mais qui là, notamment pour les industriels locaux, a pu opérer des achats groupés au niveau énergétique, qui certes étaient peut-être le double du prix d'origine, sauf que aujourd'hui, celles qui ont pu être accompagnées par Recto Verso par ce biais-là s'en trouvent fortement heureuses, puisque le prix, il est plus au double, il est à 4 fois plus, voire 5 fois plus. Donc celles-ci, elles ont garanti pour l'année prochaine et dans 2 ans un tarif, quoi, en espérant que ça puisse tenir. Mais donc là aussi, c'est une solution qui a été apportée localement par une association portée par la Glo2B et des entreprises locales qui est plutôt salvatrice, c'est bien.
Ça va demander justement aux chefs d'entreprise dont vous faites partie d'être à l'initiative de nouveaux projets, d'être force de proposition, de justement sortir de ce qui existait déjà. Ça vous oblige à faire ce bond intellectuellement?
Oui, alors comme les particuliers, là, l'État demandait à baisser à 19 degrés, et ce qui est plutôt sain, hein, même pour la santé, c'est bien de pas trop chauffer. Mais les entreprises, déjà d'un point de vue gestion, travaillaient leur coût énergétique. Je pense qu'elles vont faire de plus en plus attention. C'est normal, hein, comme un particulier, c'est plutôt bien. Ceci dit, il ne faut pas que ça aille. Il ne faut pas que ça aille contre la croissance qu'elle pourrait avoir.
Est-ce que ces entreprises ont toutes les marges de manœuvre dont elles pourraient avoir besoin? Je pense par exemple une entreprise qui pourrait décider, on parlait de l'énergie, de produire son électricité en photovoltaïque, en éolien, que sais-je, en biomasse, mettons. Ça demande des investissements, ça demande qu'il y ait un temps de réponse, il y a un temps de construction, un temps d'investissement. Est-ce que les entreprises ont ces capacités?
Alors techniquement, je ne vais pas vous apporter de réponse, j'en ai pas les compétences. Je pense que de toute façon, en fonction de leur activité, les solutions photovoltaïques ne peuvent pas répondre à tout. Ça peut répondre à des consommations immédiates et quotidiennes par rapport à des locaux ou en tout cas des besoins quotidiens, mais par rapport à de l'usine, à des fours, où là ça va, c'est pas actuellement, c'est pas du tout étudié pour, d'autant plus que produire son électricité, c'est une chose, l'emmagasiner pour la, c'est autre chose, c'est un autre problème. Et puis concernant les aides qu'on pourrait apporter, qui pourraient être apportées aux entreprises pour s'équiper par rapport à ça, je suis pas au fait exactement. Au fait exactement, mais ceci dit, je pense que là aussi, l'État aura à charge de revoir sa copie, peut-être pour accompagner les entreprises et trouver une solution.
Vous êtes le patron aussi de Tremblay Créateur. Il y a un marché qui a explosé ces derniers mois, voire ces dernières années, justement, c'est celui de la piscine privée. Pour vous, est-ce que d'abord vous manquez-vous de personnel pour répondre à ce marché qui ne fait que grandir?
Alors, en effet, le marché de la piscine et du paysage, puisque on est paysagiste également, on fait tout l'aménagement extérieur, était plutôt positif pendant la période Covid, hein, je ne vais pas le cacher, c'était plutôt positif. Alors après, il y a différents marchés dans la piscine. On est plutôt, nous, sur la piscine de qualité, béton armé, sur mesure, et qui demande des compétences et un temps de mise en place qui n'est pas compressible.
Il y a donc une flambée, là aussi, des matières premières.
Également, oui, ça c'est... Alors, on n'est pas le marché de la piscine qui a le plus profité de ce secteur-là. Okay. Mais je ne vais pas me plaindre, c'était quand même plutôt positif. Hein. Mais oui, c'est plutôt tout ce qui était industriel qui se met vite en place et qui en a profité. Ceci dit, le marché était plutôt bon. On n'a pas pu répondre à toutes les demandes parce que par manque de personnel. Notre type de conception d'activité, que ce soit dans le paysage ou la piscine, demande des compétences, des personnes qualifiées et formées. Comme beaucoup d'entreprises qui ont diverses activités sur le territoire, on recherche du monde, différents postes. Que ce soit du paysagiste, que ce soit de l'étancheur, que ce soit du maçon. Ceci dit, il faut trouver des personnes compétentes, formées. Nous, on est prêts aussi à les accompagner, à porter des formations, comme on le fait depuis plusieurs années. C'est important de former son personnel. Mais c'est une problématique, ce qui fait qu'on ne peut pas répondre forcément à toutes les demandes qu'on a, parce qu'on n'a pas aussi de personnel.
Alors un marché de la piscine qui s'est développé, et puis derrière une grosse sécheresse, restriction d'eau, qu'est-ce que ça entraîne justement sur ce marché? Déjà, est-ce que toutes les piscines ont pu être mises en eau? Et puis est-ce que ça change justement la conception des piscines, mais aussi des aménagements paysagers qu'on peut faire chez les gens, chez vos clients?
Alors là, on a deux parties, à la fois la piscine et à la fois le paysage. Alors, une piscine, c'est pas une baignoire, on la vide pas. Donc,
oui, mais la première mise en eau.
La première mise en eau, oui. Ça, celle-ci, elle est active. On a pu toutes les mettre en eau, oui, parce qu'elles étaient commencées avant. Ceci dit, après, dans l'utilisation, aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation qui nous bloque vraiment. J'espère, comme beaucoup de pays où il y a des piscines comme l'Espagne ou qui connaît un climat plus chaud que nous, et avec moins d'eau ici, ils ont aussi beaucoup de piscines. Ceci dit, ils travaillent différemment la récupération des eaux. En France, on récupère à peu près 2% des eaux usées pour les retraités, en arrosage de jardin, différentes choses. Là, on a un gros travail à faire, je pense, puisque l'Espagne, elle, est à 25%. L'Israël, qui manque cruellement d'eau, est à 80% de récupération de ses eaux usées. Donc, je pense que notre travail, nous, c'est plutôt là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Après, aussi, dans la conception et le fait qu'on fasse l'entretien des piscines régulièrement, il y a aussi des matières économes à faire. Et ça, on travaille depuis longtemps dessus.
Au-delà de cette sécheresse, de cet épisode de sécheresse, il y a ce changement climatique et ça entraîne des modifications dans votre métier, dans la façon de concevoir les jardins, dans les essences, dans la façon dont on travaille le sol peut-être.
Notamment dans les essences, les espèces que l'on plante, on travaille différemment les jardins, on prend des essences qui sont plus acclimaté à la chaleur, à un manque d'eau.
On revient sur quelques règles de bon sens, en fait.
Oui, tout à fait. Donc, mais c'est assez logique. Pour avoir un beau jardin, il faut aussi avoir des plantes qui se portent en bonne santé. Et le manque d'eau, la chaleur extrême fait que quelquefois on n'a pas des plantes, le fait qu'on ne puisse pas arroser aussi, qu'on n'a pas forcément un bel espace. Donc à nous de travailler les espèces de façon à ce qu'elles s'acclimatent mieux. Donc on va aller chercher des espèces qui sont plus résistantes, qui demandent moins de ressources.
Et est-ce qu'on va aller vers la pelouse synthétique? Est-ce qu'on va voir ces pelouses-là se développer? Est-ce que si c'est le cas, ce n'est pas un crève-cœur pour le paysagiste que vous êtes?
Si. Alors, je vais pas vous dire que on place aussi de la pelouse synthétique.
On en voit de plus en plus.
Oui. Aux États-Unis, ils peignent même leur pelouse qui est sèche. C'est pas super, mais c'est comme ça. Alors, en effet, le gazon synthétique peut tout à fait se positionner et est une solution par rapport à des terrains de sport, par rapport à des petits espaces, des petits jardins qu'on souhaite garder propres, ainsi de suite. Ceci dit, j'espère, là également, il y a différentes espèces d'engazonnement qu'on peut travailler, qui demandent plus ou moins d'eau. Donc, il y a des solutions à trouver. Il y a également, quand on parlait de la récupération des eaux usées afin de pouvoir arroser, c'est relativement sain de pouvoir trouver des solutions dans ce sens-là, afin de trouver des espaces verts, même au niveau des collectivités, qui puissent rapporter de la fraîcheur au sein des villes, au sein des parcs. Donc, c'est nécessaire aussi, à mon sens, de trouver des solutions de façon à garder ces fraîcheurs-là.
Au-delà de l'exemple de votre métier, est-ce qu'au sein du club des entreprises, c'est une dimension, cette adaptation au changement climatique qui est prise en compte par vos adhérents? Parce qu'on peut aussi penser à des usines, parfois, qui sont surchauffées sous la tôle. Ça peut être aussi quelque chose qui est travaillé dans d'autres domaines d'activité que le vôtre.
Alors, là, on va toucher aussi le bien-être au travail. Donc, oui, de toute façon, le sujet est présent comment vivre son environnement. Alors, c'est un tout, hein, c'est pas simplement le climat. C'est surtout être responsable vis-à-vis de son environnement. Donc, là, actuellement, le thème de la chaleur, comment c'est vécu en entreprise, c'est pas forcément un thème qu'on a. Par contre, le thème de l'environnement, le respect de l'environnement, le retraitement des déchets, tout ça, là, oui, c'est un thème qui est acté et qui est actuel au sein des différentes entreprises et au sein du club.
Et pour le particulier, le mot d'ordre quand on vous passe commande, c'est on veut du beau et pas beaucoup d'entretien, c'est ça? Souvent?
Alors, oui, parce que maintenant le rythme des gens va vers moins de contraintes et on vit moins pour tondre son gazon quand on rentre ou tailler ses haies, mais on veut garder son temps pour soi, mais on veut avoir un beau jardin. Donc en effet, à nous de trouver les solutions de façon à avoir une architecture de terrain, un espace agréable qui ramène du frais, mais qui également apporte du confort et moins de contraintes.
On ne peut pas se quitter sans dire un mot de votre plénière ce jeudi, l'intelligence artificielle. C'est pas vous qui avez choisi le thème, vous travaillez en commission.
Oui.
Et quelle sera vous la marque de fabrique que vous souhaitez faire sur ce club des entreprises? Imprimé, je cherchais le mot.
Alors la prochaine plénière, en effet, c'est le 22, c'est demain. C'est le 22 septembre, c'est demain. On commence par une visite à l'entreprise Pasquier,
oui.
L'un ou l'autre, mais
au cercueil de Malébrier, ouais.
Donc là, on sort un petit peu du territoire, mais c'est juste en marge. Mais c'est une entreprise qui est une superbe entreprise, un fleuron qui travaille, dont beaucoup de salariés qui habitent le territoire travaillent. Et puis Pasquier travaille aussi en sous-traitance avec aussi des entreprises du territoire. Donc ça sera une très belle visite.
Les inscriptions sont close. Il y avait une jauge de 150, donc...
Ouais. Bon, après, si vous inscrivez aujourd'hui, on les accueille, hein. Allez-y, hein. Non, ce sera un plaisir. Mais oui, ça devient... C'est la limite, là, hein. Il faut le faire.
Et puis l'intelligence artificielle, justement, ce sont des thèmes qui vous inspirent.
Alors,
on y va tout droit.
Oui, de toute façon, c'est un thème qui est actuel, qui était déjà présent bien avant et qui touche de plus en plus toutes nos entreprises, puisque c'est à la fois dans la comptabilité, c'est aussi dans la production, mais il y a différents leviers au sein des entreprises, quelle que soit leur activité. Et puis, c'est aussi la sécurité, puisqu'on parlait de cyberattaques, de différentes choses, et c'est lié aussi.
Et vous alors, votre marque de fabrique, qu'est-ce que vous avez envie d'impulser au sein de ce club?
Alors, le travail jusqu'à maintenant accompli, et notamment par Gérald Fauchereau et puis précédemment par Éric Fontenot, a été vraiment bénéfique et ça a amené énormément de liens, de dynamisme au sein du club. L'idée est vraiment de travailler dans la pérennité. Alors forcément... peut-être que je mettrai une touche qui sera peut-être différente, parce que on est tous différents. Ceci dit, la pérennité est vraiment, et la continuité est vraiment le lien, et le bien vivre ensemble, afin de répondre aussi à des besoins et des solutions. Donc, après, comme vous l'avez dit, les thèmes, on les travaille, c'est pas moi qui les choisis. C'est, et heureusement, hein, puisque on est une association et on est tout un groupe à travailler. Donc c'est au sein des conseils d'administration qu'on choisit les thèmes. Et après, on restera toujours sur de l'animation relativement conviviale et festive.
Merci à vous, Pascal Tremblay. Bonne plénière demain. Merci Fabien, merci Dominique.
Merci à vous.